Dès que l'on pénètre dans l'église, la première chose à faire est de lever les yeux. On voit alors une belle charpente en bois, en berceau, avec ses étés, c'est-à-dire ses trois T inversés. La charpente en bois est une caractéristique normande. À l'époque romane, les bâtisseurs vont travailler à voûter en pierre les édifices parce que c'est plus joli, plus acoustique et moins dangereux. C'est que les charpentes en bois prennent facilement feu à cause de la foudre, mais aussi à cause des bougies que l'on allume en grand nombre. Et oui, les églises sont sombres et l'éclairage moderne n'existe pas. Cependant, les Normands aiment construire des églises hautes, ce qui rend les voûtes en pierre très difficiles à concevoir. Il faut des murs solides et des contreforts bien étudiés. Alors les églises vont garder plus longtemps et plus qu'ailleurs leurs charpentes en bois. Et comme ensuite la Normandie, ruinée, devient française en 1204, que les seigneurs et l'église ont largement moins de moyens pour entretenir leurs églises, et qu'en plus les églises ont des tailles disproportionnées par rapport au village, les églises garderont leurs charpentes.
D'ailleurs, savons-nous en quel bois sont faites les charpentes ?
En châtaignier ou en merisier, car les insectes ne s'y mettent pas. Il n'y a donc pas de problème d'infection du bois, et en plus, il y a peu de toiles d'araignée.
J'ai une autre question. À quoi pouvait servir la grande baie aveugle que l'on voit sur le mur sud en entrant ?
Il s'agirait d'une grande ouverture qui permettait aux lépreux de la léproserie Sainte-Marguerite d'assister à la messe sans pénétrer dans l'église. Il est très probable qu'elle était alors fermée par une demi-porte s'arrêtant à mi-hauteur d'homme. Ceci reste une hypothèse, surtout quand on connaît le traitement des malades au Moyen-Âge. Isolement complet dans la léproserie avec interdiction d'en sortir, à moins d'être guéri, ce qui était hélas impossible. La léproserie de Virville était ainsi entourée d'eau afin que les lépreux n'aient pas de contact avec le monde extérieur. Quoi qu'il en soit, cette ouverture, qui permettait de pénétrer facilement dans l'église, a été condamnée vers 1837 après un vol dans l'église. Vous parlez de la léproserie me rappelle une anecdote racontée par l'abbé Ecquet dans la présentation du village qu'il a écrite en 1868. Il explique qu'au hameau de la Croix, où se situe la léproserie,
le dimanche de la Sainte Trinité, le 7 juin 1868, nous, prêtres, curés de Virville, avec la permission de l'autorité ecclésiastique, accompagnée de messieurs les membres du conseil municipal, administrateur du temporel de l'église, Victor Bayol, maire, Jules Lebaïf, adjoint, Guillaume Lefebvre, trésorier, Alexandre Lemaître, Désiré Bayol, Césaire Débusquet, Auville, Pierre Duparc et un peuple nombreux avons été processionnellement procédés à la plantation d'une croix en remplacement d'une croix d'ancienne date et vermoulue qui, selon les uns, a été plantée jadis à l'endroit même où une petite croix avait été trouvée dans terre sans savoir d'où elle venait et, selon les autres, pour dissiper certains prestiges qui mettaient sans cesse le quartier en émoi parce que, disent-ils, l'on voyait les pommiers et les arbres en feu et l'on entendait toujours du bruit comme si des revenants étaient venus épouvanter les paisibles habitants de ce hameau. Enfin, une dernière question. Pourquoi trouve-t-on les fonts baptismaux à l'entrée de l'église alors qu'aujourd'hui on baptise les enfants à côté de l'autel ?
Tout simplement parce qu'autrefois, un enfant non baptisé n'avait pas le droit de pénétrer dans une église. Ce n'est qu'une fois baptisé et membre de l'église qu'il pouvait entrer dans l'édifice. C'était très symbolique. Les fonts baptismaux étaient d'ailleurs, au premier temps, à l'extérieur des églises. Puis ils ont été rentrés et installés à l'entrée des églises. Ce n'est que plus tard, pour s'adapter à une liturgie plus moderne, que certains fonts ont été rapprochés de l'autel. Aurais-je oublié de vous reparler du graffiti à l'entrée ? Toutes mes excuses. Vous l'avez peut-être reconnu. Il s'agit du château de Goutiménil, tout proche d'ici. Comme tous les graffitis, ses origines sont obscures. D'habitude, il représente plutôt des croix, l'auteur voulant se voir accorder une bénédiction divine, ou des bateaux pour demander une protection ou faire le vœu d'une vie meilleure dans les lointaines colonies. Que s'est-il passé dans la tête de notre tagueur d'autrefois ? On ne le saura sans doute jamais. Je vous propose maintenant de vous avancer un peu plus vers l'autel pour la suite de notre visite.